Alors, en même temps que tous les gouvernements déréglementaient la finance, ils modifiaient leurs lois nationales pour faciliter les investissements directs de firmes étrangères dans l'industrie. Ils ouvraient des secteurs économiques longtemps protégés, comme les transports, l'énergie, la distribution de l'eau, la téléphonie, qui étaient contrôlés jusque-là soit par des sociétés publiques, soit par des entreprises nationales. L'un des résultats de ces mesures fut l'augmentation spectaculaire du nombre d'entreprises dites multinationales ou transnationales, selon les ouvrages. C'est-à-dire que, selon une définition de l'ONU, une entreprise qui réalise plus du quart de sa production dans des filiales implantées dans au moins 6 pays différents. Selon les chiffres de l'OIT, il y aurait aujourd'hui 50 000 multinationales, contre 7 000 vers 1980. Si l'on prend en compte les participations croisées au sein de ces multinationales, moins de 800 sociétés contrôlent 80% de celles-ci. L'immense majorité de ces firmes ont leur berceau dans les pays développés, où elles réalisent d'ailleurs plus de 80% de leurs investissements, car en fait, c'est là que vivent l'essentiel de leurs clients. Le Japon, les États-Unis et l'Europe concentrent toujours à eux seuls la majorité de la production et des échanges mondiaux. Alors, ces sociétés ne sont pas désincarnées. Elles appartiennent à des capitalistes en chair et en os. Ce sont les héritiers des vieilles dynasties bourgeoises, les De Vendel, les Bettencourt, les Agnelli. Ce sont de nouveaux capitalistes qui ont émergé plus récemment, comme Bill Gates ou Amancio Ortega, fondateur de Zara. Comme l'écrit le journal Les Échos, qui consacre un article ce week-end dans son supplément, dans son magazine, à la famille Peugeot, je cite « La majorité des entreprises privées allemandes, italiennes ou françaises sont contrôlées par des familles. Celles-ci règnent sur le tiers des plus grandes firmes cotées aux États-Unis. On est bien loin du règne obscur des fonds de pension. Ces groupes géants emploient directement 200 millions de salariés dans le monde. Et avec la sous-traitance, près d'un travailleur sur cinq de la planète travaillerait pour une multinationale. Le géant de la distribution américain Walmart, propriété de la famille Walton, est le premier employeur au monde avec 2,1 millions de salariés. Ces firmes géantes ont incontestablement un poids économique supérieur à nombre d'États. Le chiffre d'affaires cumulé des 10 premières multinationales dépasse les PIB de l'Inde et du Brésil réunis. En 2013, Apple avait une capitalisation boursière équivalente au budget de la France, un peu moins de 500 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires d'ExxonMobil est égal au PIB de la Norvège, celui de Toyota au PIB de la Grèce. Comme par le passé, ces groupes forment des alliances pour vendre leur production à des prix bien supérieurs au marché dit libre. Ils font des cartels pour réduire artificiellement la production d'aluminium, de pétrole ou d'autres matières premières, en contournant ou en violant ouvertement les lois anti-dumping de nombreux pays supposés interdire de telles pratiques. Les grands groupes de la pharmacie, de la téléphonie ou de l'automobile, concurrents acharnés pour se partager les marchés, s'unissent pour imposer les normes sanitaires ou environnementales qui les arrangent. Et ces alliances changent au gré des rapports de force et des calculs de leurs actionnaires. Ces firmes multinationales peuvent jouer un État contre un autre pour obtenir de meilleurs avantages, les impôts les plus bas, des crédits impôts recherche ou des pôles de compétitivité, pour obtenir les obligations sociales les moins contraignantes ou encore des commandes publiques. Elles déplacent, comme Netflix, leurs sièges sociaux d'un pays à l'autre pour bénéficier du meilleur taux de TVA ou des impôts les plus faibles. Elles s'adaptent au gré des modifications des lois. C'est ce que déclarait Jeffrey Immelt, le PDG de General Electric, au printemps 2014 lors de l'épisode du rachat d'Alstom par General Electric. Il disait « Nous intervenons dans 170 pays différents. Chaque pays a ses spécificités et ses difficultés. Nous nous adaptons à chaque situation. » C'était une façon tranquille de dire qu'avec un chiffre d'affaires de quelque 100 milliards d'euros et plus de 300 000 salariés dans le monde, General Electric était plus puissant que la plupart des États dans lesquels il a des filiales. Et le cinéma de Montebourg sur la vigilance patriotique du gouvernement était destinée à la population et aux électeurs. Montebourg et Hollande, en bons serviteurs de la bourgeoisie, savaient parfaitement que le rachat ou la vente de telle ou telle filiale chez Alstom, General Electric ou ailleurs relève de la seule prérogative des actionnaires. Car au-dessus de la souveraineté des États, il y a la souveraineté des grandes firmes dont les États ne sont que les agents. Alors, le caractère multinational de ces grandes firmes, le fait qu'elles réalisent comme Total la majorité de leur chiffre d'affaires à l'étranger plutôt que dans leur pays d'origine, ne les empêche pas de conserver de multiples relations privilégiées avec le pays au sein duquel elles se sont développées. N'en déplaise aux souverainistes qui déplorent l'affaiblissement des États face aux firmes multinationales, l'État reste le garant en dernier ressort de leurs intérêts. C'est lui qui réinjecte, par exemple, des milliards dans les périodes de crise, comme tous les États le firent pour leurs constructeurs automobiles en 2008, ou lorsqu'il faut moderniser les installations sans que les actionnaires ne déboursent un centime. Ces liens passent par de multiples canaux. Les dirigeants politiques sont liés, socialement, humainement, intellectuellement, à la bourgeoisie de leur pays. Dans tous les pays, pour accéder au pouvoir, les grands partis, de droite ou de gauche, sont financés d'une façon ou d'une autre par la bourgeoisie. Ils doivent avoir le soutien des grands médias, qui en France sont la propriété des Bolloré, Bouygues, Dassault et compagnie, et pas de Thyssen ou Danieli. Les diplomates et les dirigeants politiques se transforment en agents commerciaux pour ces grands groupes à chaque visite dans un pays dit émergent. Le ministre français de la Défense est chargé de vendre des Rafales à l'Égypte ou au Qatar, des sous-marins à l'Australie, pendant que celui des affaires étrangères accélère la vente d'avions Airbus à l'Iran ou l'installation d'une usine de locomotives Alstom au Kazakhstan. Laurent Fabius, qui était ministre du Commerce extérieur, en plus d'être aux affaires étrangères, déclarait sans détour en 2013 « Le Quai d'Orsay doit être la maison des entreprises ». La guerre économique n'étant jamais loin de la guerre tout court, la plupart des interventions militaires des puissances impérialistes ont pour but de défendre le précaré de leurs industriels, l'accès aux minerais, au pétrole, et la priorité pour leurs capitalistes dans les marchés de reconstruction après les guerres et les destructions qu'ils ont eux-mêmes faites. Si la rivalité entre les différents impérialistes ne se traduit pas actuellement par une guerre ouverte, c'est que la suprématie incontestée des États-Unis contraint ses concurrents, en particulier européens, à ramasser les miettes. Le budget militaire des États-Unis, de loin le plus élevé du monde, permet aux forces armées américaines de mener dans la durée plusieurs interventions militaires en même temps. Les États-Unis ont une influence prépondérante depuis l'origine sur les institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale, mais aussi l'ONU. Leur monnaie, le dollar, reste impliquée dans 80% des transactions internationales. Toutes les grandes modifications intervenues dans le fonctionnement de la finance mondiale depuis 30 ans ont été initiées aux États-Unis. Les États-Unis fixent les règles du jeu, les normes dans l'industrie, attirent les meilleurs scientifiques de la planète, ce qui permet aux firmes américaines de déposer l'essentiel des brevets sur les innovations décisives. Et tout cela contribue directement au fait que le tiers des 500 premières multinationales réparties dans la plupart des domaines sont américaines. Alors les États, et en premier lieu les États-Unis, sont donc plus que jamais le bras armé de leurs grands groupes. Le bras de fer entre les grandes firmes et derrière elles, les États qui défendent leurs intérêts, s'exprime depuis quelques décennies à travers les accords de libre-échange signés entre des pays ou des groupes de pays. Le courant altermondialiste s'était beaucoup agité à la fin des années 1990 lors des manifestations contre l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui remplaça en janvier 1995 l'ancienne structure régissant depuis l'après-guerre les tarifs douaniers et la réglementation commerciale entre les États. Nombre des accords négociés dans le cadre de l'OMC ne sont au bout du compte pas ratifiés par les États. Moins de 10% des sujets abordés lors des négociations de Doha en 2001 sont aujourd'hui ratifiés. Et quand ils le sont, ils ne font qu'entériner les rapports de force déjà existants. Si les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni estiment que les intérêts de leurs trusts sont bafoués, ils refusent de signer et ils appliquent les normes et droits de douane qu'ils veulent. Malgré la période de libre-échange généralisée dans laquelle nous vivons, les échanges ne sont ni libres ni équitables, mais régis par la loi de la jungle du capitalisme. Le Mexique, le Canada et les États-Unis appartiennent à la même zone de libre-échange, l'ALENA, mais le Mexique y est entré de façon subordonnée. Alors, les discussions actuelles autour du TAFTA, le traité de libre-échange transatlantique, entre les États-Unis et l'Union européenne, provoquent les foudres des souverainistes. Pensez donc, les États-Unis pourraient être autorisés à vendre du poulet au chleur en Europe. Alors, par réciprocité, Findus sera peut-être autorisé à vendre à New York ses lasagnes à la viande de cheval. Alors, plus sérieusement, les opposants au TAFTA dénoncent la mise en place d'un tribunal d'arbitrage privé qui pourrait exiger, de la part des États signataires, le paiement de fortes indemnités en cas de changement de législation ou de règles sanitaires défavorables à leurs intérêts. Une fois encore, ils dénoncent la perte de souveraineté nationale. Alors, de tels tribunaux existent déjà, y compris en Europe. Par exemple, depuis la décision du gouvernement Merkel de fermer les centrales nucléaires allemandes en 2011, la société suédoise Vattenfall réclame 4,7 milliards d'euros au gouvernement allemand en s'appuyant sur les dispositions de la Charte européenne de l'énergie signée en 1994. Cette charte, comme tous les accords de libre-échange, avait été signée en toute connaissance de cause par les États qui étaient non pas des victimes, mais des acteurs de ces décisions. Alors ces tribunaux arbitraux, en fait, ils sont conçus pour faciliter, pour contourner en cas de litige, les milliers de pages des règlements qui régissent le commerce international. Mais en fait, ces tribunaux, ils n'ont pas de pouvoir de coercition. En dernier ressort, ce qui est déterminant, c'est la puissance de l'État auquel les firmes sont adossées. Et puis ça marche dans les deux sens. Quand une grande firme, comme la Société Générale ou Volkswagen, viole un accord ou une loi, les États-Unis sont en situation de lui faire payer des amendes de plusieurs dizaines de milliards de dollars, ce qui n'est certainement pas le cas de la Côte d'Ivoire ou de l'Uruguay. Il en va au niveau international exactement comme à l'échelle d'un pays. Total a infiniment plus de moyens face à la justice que les habitants de Toulouse qui ont perdu leur fenêtre et parfois leur vie lors de l'explosion d'AZF. Alors, pour l'instant, le gouvernement américain, qui refuse d'ouvrir ses marchés publics aux capitalistes européens, eh bien, c'est le meilleur opposant au TAFTA. Les négociations sont actuellement suspendues et, campagne électorale oblige, Donald Trump comme Hillary Clinton se sont déclarés hostiles à ce traité, tout comme Hollande et Valls, d'ailleurs. Mais à la fin, les uns et les autres feront ce que les plus puissants et les plus influents des capitalistes de leur pays leur demanderont de faire. Alors les classes populaires, elles n'ont certainement rien de bon à attendre de ces traités. Et d'ailleurs, le caractère secret des négociations suffit à le montrer. Mais croire que les normes de nos multinationales sont meilleures que celles de leurs concurrents, c'est une illusion dangereuse. C'est le pouvoir des unes et des autres sur toute l'économie qu'il faut contester. Alors, le libre-échange généralisé, auquel s'ajoute la baisse des coûts de transport, l'effondrement du prix des télécommunications et l'extension du réseau Internet à une grande partie de la planète, est rendu responsable des suppressions massives d'emplois et du chômage de masse dans les pays capitalistes développés. C'est ce que répètent nombre de politiciens, de gauche ou de droite, qui dédouanent ainsi les responsabilités des capitalistes français. Mais c'est aussi le discours des souverainistes et des altermondialistes qui réclament des mesures protectionnistes et la relocalisation de la production. C'est le discours des syndicalistes qui dénoncent le dumping social et exigent une bonne politique industrielle. Mais c'est aussi le ressenti de bien des travailleurs à qui l'on rabâche qu'ils coûtent trop cher, qu'il y a trop de charges en France et surtout qui voient leurs usines fermées, les emplois disparaître, et qui, plus encore, n'entendent que les discours de tous les précédents. Mais la réalité économique est bien plus nuancée, et la réponse politique n'est ni le protectionnisme, ni le repli national proposé par les uns ou par les autres. Quand une firme installe une nouvelle usine dans un pays, c'est avant tout pour y vendre ses produits. Parmi les multiples facteurs qui déterminent le choix d'implantation d'un groupe étranger dans un pays, il y a la taille du marché, le réseau des fournisseurs et des sous-traitants, la qualité des infrastructures, la qualification et la disponibilité du personnel, et ensuite seulement le niveau des salaires et les diverses mesures d'attractivité proposées par les gouvernements ou par les collectivités locales. Si les constructeurs automobiles mondiaux ont installé des usines en Chine, ce n'est pas pour ramener les voitures en Europe ou aux États-Unis, mais pour les vendre aux 100 à 200 millions de Chinois suffisamment solvables pour en acheter. Quand Toyota a construit en 1999 une usine à Honin, près de Valenciennes, c'est qu'il visait le marché européen. La région du Nord-Pas-de-Calais est proche du Benelux, de la Ruhr industrielle, de la Grande-Bretagne. C'est une région très industrialisée, avec de multiples sous-traitants, mais aussi un fort taux de chômage qui contraint des milliers d'ouvriers qualifiés à accepter de dures conditions de travail avec des bas salaires. Alors la Yaris, produite sur les chaînes de montage d'Honin, avec des travailleurs aux multiples origines, est-elle une voiture française, européenne, japonaise? Elle est incontestablement mondiale. Et plus incontestablement encore, elle produit des profits pour les grands actionnaires de Toyota qui, eux, peuvent être de n'importe quelle nationalité. Alors, il existe de véritables délocalisations, c'est-à-dire le transfert de tout ou partie d'une production vers un pays où les salaires et les coûts de production sont plus bas pour la ramener ensuite vers le marché visé. C'est le cas dans le textile, l'électroménager, dont les productions sont transportées depuis l'Asie sur des porte-conteneurs géants. C'est vrai de multiples sous-ensembles qui composent les produits assemblés en Europe ou aux États-Unis. Cela touche les constructeurs automobiles qui ont implanté des usines de montage au Mexique pour le marché américain, plus récemment en Europe de l'Est, au Maghreb ou en Turquie pour le marché de l'Europe de l'Ouest. Cela concerne les centres d'appel téléphonique, les services informatiques, certains services comptables, la recherche et le développement. Mesurer l'impact des délocalisations sur l'emploi n'est pas simple, tant les créations et les suppressions d'emplois sont permanentes, tant les processus de production, avec la sous-traitance, les transferts d'une filiale à l'autre au sein d'un même groupe sont complexes. En outre, l'ampleur des délocalisations varie selon la conjoncture économique. Selon l'INSEE, entre 1995 et 2001, c'était la période de l'expansion industrielle en Chine, les délocalisations auraient été responsables de 10 à 20% des suppressions d'emplois. Pendant la période 2009-2011, c'est-à-dire au plus fort de la crise, les délocalisations auraient provoqué en tout et pour tout la perte de 20 000 emplois directs dans l'industrie, soit moins de 1% de l'emploi industriel. Alors, même s'il faut relativiser la fiabilité de ces chiffres de l'INSEE, cela signifie avant tout que les centaines de milliers d'emplois supprimés dans cette même période l'ont été pour de tout autre raison que les délocalisations. Outre les licenciements économiques pour cause de baisse des ventes en pleine crise, la raison principale a été et reste l'augmentation de la productivité, les hausses de cadence, la réduction des pauses, les réorganisations des ateliers, la polyvalence, le recours aux heures supplémentaires, etc. etc. Dans l'industrie automobile, où les salaires représentent moins de 10% du coût d'une voiture, ces gains de productivité, réalisés en usant les travailleurs, en multipliant les troubles musculo-squelettiques, ont été spectaculaires. Alors tous ceux qui braquent les projecteurs sur les seules délocalisations ou sur le libre-échange généralisé cherchent à cacher cette réalité. Mais la rapacité des capitalistes ne disparaîtra ni en rétablissant les droits de douane, ni en renforçant les frontières. Ce qui n'a cessé d'augmenter, non du fait de la mondialisation, mais du fait de la recherche permanente des profits, eh bien c'est l'exploitation des travailleurs partout dans le monde. La loi de la jungle d'une économie capitaliste en crise, phagocytée par la finance, pousse la bourgeoisie à restructurer en permanence, à racheter et vendre des usines partout dans le monde, à supprimer des emplois, à aggraver partout l'exploitation pour réduire ses coûts de production. Alors elle a mis la planète en coupe réglée, pompant la plus-value créée par les travailleurs des métropoles impérialistes comme des pays émergents, qui sont tous reliés par le même processus de production. Les inégalités n'ont cessé de se creuser au cours des 40 dernières années, entre les pays et à l'intérieur des pays, entre les classes sociales. Moins de 70 milliardaires concentrent autant de richesses que 3 milliards d'êtres humains, et quelques dizaines de milliers de grandes fortunes accaparent l'essentiel. Selon les chiffres de l'OIT, plus de 2 millions de travailleurs décèdent chaque année du fait d'un accident ou d'une maladie professionnelle. C'est plus que les victimes annuelles de toutes les guerres réunies. Et ces chiffres ne tiennent pas en compte tous ceux qui disparaissent sans laisser de traces, par exemple au fond des mines africaines. L'exploitation accrue des uns s'accompagne partout dans le monde du chômage forcé des autres. Il y a quelque 200 millions de chômeurs recensés dans le monde, là encore sans compter les centaines de millions de travailleurs informels qui échappent à toute statistique. Pour tirer les salaires vers le bas, les patrons cherchent constamment à opposer les travailleurs les uns aux autres. Ils n'hésitent pas à opposer les travailleurs d'Europe ou d'Amérique avec ceux d'Asie ou d'Afrique, ceux de France ou d'Allemagne avec ceux d'Europe de l'Est. Mais ils opposent aussi ceux en CDI aux intérimaires, ceux qui sont qualifiés à ceux qui ne le sont pas, les hommes aux femmes, les autochtones aux étrangers. Et si on les laisse faire, eh bien ils opposeront bientôt, au sein d'une même branche, voire du même groupe, les salariés qui auront accepté de travailler plus longtemps et de baisser leur salaire à ceux qui refusent leur chantage permanent. Alors, pour ne plus subir la loi de la jungle du marché capitaliste, les travailleurs doivent s'unir. Ils doivent opposer au patronat leur organisation de classe au-delà de leur entreprise, au-delà de leur branche, y compris par-delà les frontières. La mondialisation capitaliste, c'est avant tout l'interdépendance généralisée de tous les pays. C'est la complexification des processus de production et leur segmentation en un nombre toujours plus grand de lieux de production. J'ai donné l'exemple de l'iPhone au début de cet exposé. Mais cette parcellisation de la production n'est pas l'apanage de l'électronique assemblée en Chine. Elle vaut pour quasiment toutes les marchandises. L'Airbus A380, assemblé à Toulouse, et qui nous est vendu comme le fleuron de la technologie industrielle européenne, sinon française, comporte 3 millions de pièces détachées, issues de 77 pays différents. Deux éléments aussi fondamentaux pour un avion que les réacteurs et les pneumatiques viennent des États-Unis, la patrie du concurrent Boeing. Quant au Boeing 747, il comporte lui aussi plus de 3 millions de pièces, issues de 33 pays différents, y compris la France, qui fournit en particulier les trains d'atterrissage. Alors cet exemple démontre l'absurdité de vouloir produire français ou acheter français, sauf à vouloir se priver des avions ou du téléphone, mais en réalité de la totalité des produits manufacturés, y compris les marinières made in France, dont le coton, à ma connaissance, n'est pas produit en France, sans parler des machines qui permettent sa fabrication. Donc, en tout cas, la démondialisation, c'est un slogan creux aussi absurde que réactionnaire. Alors, la mondialisation a réalisé la socialisation de la production, entrevue par Marx il y a plus de 150 ans et déjà mûre du temps de Lénine. Et c'est un processus irréversible. La réponse au ravage de l'économie capitaliste mondialisée ne peut pas être un impossible retour vers la petite production locale. C'est au contraire d'avancer vers une étape supérieure, l'expropriation des quelques milliers de multinationales, des banques et la collectivisation de ces sociétés. La mondialisation est la base économique d'une société communiste. Les grands groupes industriels ou bancaires centralisent des outils de recensement, de prévision, d'organisation, de rationalisation qu'il faudrait mettre au service de toute la société. En prenant le contrôle de ces groupes, les travailleurs pourraient satisfaire tous les besoins de l'humanité, nourrir, loger, instruire, soigner tous les êtres humains, sans en condamner des centaines de millions à la malnutrition, aux maladies chroniques, au sous-développement et à la barbarie. Alors les firmes multinationales, elles ont le monopole sur des pans entiers de la production, mais elles n'ont pas aboli la concurrence qui renaît sans cesse. Et c'est la concurrence du marché capitaliste qui provoque des faillites, des restructurations, des rachats suivis de fermetures d'usines. Ces firmes sont souvent plus puissantes que les États, mais elles n'ont aboli ni les frontières ni le morcellement national. Et c'est pourtant en raisonnant à l'échelle de la planète que l'on peut gérer de façon rationnelle l'économie, qu'on peut adapter les capacités de production aux besoins de tous, satisfaire l'ensemble de ces besoins sans épuiser les ressources ni détruire la nature. Alors, pour exproprier ces grands groupes, il faudra une révolution sociale. Pour faire cette révolution, il faut qu'agisse une force sociale puissante, présente dans le monde entier, ayant tout à gagner à renverser la dictature du capital sur la société. Une telle classe sociale existe. C'est le prolétariat international, renforcé numériquement par la mondialisation. Car l'un des effets de la mondialisation, c'est justement d'avoir relié des millions de travailleurs au sein du même processus. L'iPhone n'est pas seulement le symbole des excès de la mondialisation. Il montre que l'ouvrier chinois, le mineur du Congo qui extrait le coltan, l'un des multiples ouvriers, techniciens, ingénieurs de la planète qui participent à la production d'une des composantes, les marins philippins qui le transportent, l'employé qui l'expédie chez Amazon, forment un tout. Ils appartiennent à la même classe et ils ont fondamentalement les mêmes intérêts. Ce qu'il leur manque aujourd'hui, c'est la conscience d'avoir les mêmes intérêts, par-delà les frontières. C'est la conscience que leur classe sociale produit tout, fait tout fonctionner, qu'elle a les capacités de se soulever, qu'elle a les capacités de prendre la direction de la société pour la réorganiser sur de toute autre base. Alors justement, le principal danger que représentent les idées souverainistes, c'est justement qu'elles obscurcissent la conscience des opprimés en leur désignant des leurres et des boucs émissaires, plutôt que de les aider à comprendre les mécanismes réels de la société et de l'économie. Alors si certains des courants altermondialistes ou souverainistes dont nous discutons ce soir sont sincèrement inquiets par l'évolution de la société, sont révoltés par les ravages provoqués par le capitalisme, c'est la mondialisation qu'ils critiquent, pas le capitalisme. Pour eux, la division de la société en deux classes fondamentales antagonistes, l'existence d'un prolétariat international uni par les mille liens de la mondialisation, renforcé numériquement par le développement des forces productives, eh bien ce prolétariat, il n'existe pas. Au mieux, ils opposent une oligarchie financière, impersonnelle, désincarnée, au peuple souverain. Ils ne conçoivent la transformation qu'ils appellent de leur vœu que par le haut, par un changement des institutions et finalement par l'intervention des États nationaux. Ils ne discutent jamais de la nature de classe de ces États. Quant à la perspective d'une intervention consciente de ceux qui produisent toutes les richesses pour prendre le pouvoir et changer la société, ils ne l'imaginent pas une seule seconde. Alors, si de telles idées étaient seulement naïves, nous pourrions nous abstenir de les critiquer. Mais elles sont aussi nocives. En dénonçant le libre-échange généralisé, la financiarisation de l'économie, les traités internationaux et les organisations supranationales, les souverainistes refusent de désigner les capitalistes en chair et en os, camouflés derrière les abstractions qu'ils dénoncent. Et ce faisant, ils les dédouanent. Tous ceux, dirigeants syndicaux, responsables du PCF ou du Front de Gauche, altermondialistes et souverainistes de diverses obédiences, qui présentent le protectionnisme comme un rempart contre le chômage, qui opposent la démondialisation à la mondialisation capitaliste, qui s'arc-boutent derrière des frontières et des États au nom de la souveraineté nationale, entraînent les travailleurs dans une impasse réactionnaire. Et ils portent une responsabilité directe dans la perte de repères politiques des classes populaires, dans le grave recul de la conscience de classe. Non seulement ils empêchent ceux qu'ils influencent, les militants ouvriers, les jeunes révoltés qui s'éveillent à la politique, de comprendre les mécanismes réels de la société, mais en plus ils distillent dans leur tête le poison du nationalisme. Opposer les pays les uns aux autres, c'est opposer les travailleurs les uns aux autres. Alors certains, comme Jean-Luc Mélenchon ou Frédéric Lordon, revendiquent une vision de gauche de la souveraineté nationale. Ils prétendent qu'il faut disputer la nation à l'extrême droite. Et ils jouent sur les mots en expliquant sans rire qu'être internationaliste, c'est être internationaliste. Mélenchon, il y a une semaine à la télévision. En somme, ils réclament l'Europe des nations plutôt que l'Europe des peuples, chère au Front national. Et ils ont beau enrober leur discours de citations de Jaurès, ils rendent exactement comme les souverainistes de droite l'Union européenne, l'euro et la mondialisation responsables de tous les maux de la société, indépendamment de la domination de la bourgeoisie. Alors l'Union européenne et la zone euro cristallisent la haine de tous les souverainistes. Elles semblent agir comme un chiffon rouge qui masque la pique tranchante du capital. À les entendre, de la loi travail aux pluies diluviennes, tout est de la faute de Bruxelles. Alors, l'Union européenne est née pour tenter de résoudre la contradiction entre l'étroitesse des marchés nationaux et le haut niveau atteint par les forces productives. Mais ce besoin de développer des liens économiques sur un territoire plus large, du point de vue de la bourgeoisie, a toujours été contradictoire avec les intérêts propres de chacune des bourgeoisies nationales qui conservent des liens intimes avec leur propre appareil d'État. Et c'est pourquoi la construction européenne a toujours été laborieuse, pleine de compromis permanents entre les intérêts nationaux de chaque bourgeoisie. N'en déplaise à la légende racontée aux enfants dans les écoles, cette union n'a jamais rien eu à voir, ni avec la paix, ni avec l'amitié entre les peuples, ni avec la démocratie. Dès le départ, ce fut une question de gros sous, de rivalité commerciale, d'accès libre aux matières premières, aux marchés, et surtout une histoire de rapport de force. L'Union européenne a toujours été dominée par les trois puissances impérialistes, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, appuyées sur l'Italie. Les élargissements successifs, en particulier vers l'Europe de l'Est, ont en fait renforcé cette domination. L'Union européenne est une union de brigands. L'un des rares progrès qu'avait réalisé cette union, à savoir une relative liberté de circulation au sein de l'espace Schengen, au moins pour les citoyens européens et les étrangers en situation régulière, a volé en éclats avec la crise des migrants et la démagogie xénophobe entretenue par tous les gouvernements. Et je tiens au passage à dénoncer la responsabilité des dirigeants de cette Europe des barbelés, au cynisme sans bornes, qui refoule et qui laisse périr en Méditerranée des hommes et des femmes qui fuient la guerre ou la misère, dont ces mêmes dirigeants sont largement responsables. Comme si la riche Europe, avec ses 500 millions d'habitants, n'avait pas les moyens d'accueillir et de laisser s'installer dans le pays de leur choix quelques millions de migrants. Alors, au fil du temps, au fil des crises, l'Union européenne est devenue un peu plus qu'une simple zone de libre-échange. Les États membres ont créé une commission et un parlement. Mais jusqu'au traité de Lisbonne de 2007, toutes les décisions européennes devaient être prises à l'unanimité des chefs d'État ou des ministres concernés. Depuis la mise en application de ce traité, le système de la majorité qualifiée donne à deux ou trois puissances européennes un droit de veto sur toutes les décisions. C'est dire qu'aucune décision européenne n'a été prise sans le consentement de ces pays. Pour être appliquée dans un État, les lois votées au Parlement européen, tout comme les directives de la Commission, doivent être transposées nationalement, et les gouvernements ne transposent que les lois qui les arrangent. Avec l'euro, les États européens ont accepté de perdre la souveraineté sur leur monnaie, dont ils ont transféré le contrôle à la Banque centrale européenne. Alors la BCE, elle est la véritable bête noire de tous les souverainistes. Ils dénoncent unanimement la perte de souveraineté de la Banque de France au profit de la BCE, qu'ils accusent d'être soumise à l'Allemagne. Jean-Luc Mélenchon écrit par exemple, alors c'est la moins choquante des citations, « La doctrine politique que l'Allemagne veut imposer partout prétend séparer totalement l'économie de la décision des citoyens et faire de la monnaie une vache sacrée autorisée à brouter ce qui lui plaît. » Ajoutant sans rire, « C'est la négation de l'identité républicaine de la France qui suppose le pouvoir sur toute chose du citoyen. » Mais quel était donc le pouvoir du citoyen sur la Banque de France dans les années 1970-1980, quand l'inflation à deux chiffres ruinait le pouvoir d'achat des travailleurs, quand les dévaluations régulières renchérissaient les importations, en particulier du pétrole? Bien cela, Mélenchon s'en fiche. Frédéric Lordon reprend à son compte cette idée que la BCE est sous la coupe de l'Allemagne et que l'austérité imposée à toutes les populations européennes résulte de l'ordolibéralisme allemand, auquel, pour le malheur de l'Europe, je cite, la France a dit oui. Pour l'ordon, si tout va mal, c'est parce que les fondateurs de l'euro ont inscrit dans les traités la limitation de l'inflation, le maintien du déficit public en dessous de 3% du PIB, celui de la dette publique en dessous des 60% de ce PIB, autrement dit les fameux critères de Maastricht. C'est aussi parce qu'ils auraient accepté le contrôle des seuls marchés sur la politique de la BCE. Et pour l'ordon, la solution, c'est d'envoyer promener les traités pour revenir au national. Alors il a peut-être échappé à Mélenchon ou à l'ordon, obnubilés par leur germanophobie, qu'en 2009, pour renflouer les banques et verser des milliards d'aides à leurs industriels, la plupart des pays, y compris l'Allemagne, se sont assis sur les critères de Maastricht. C'était plus à l'ordre du jour quand la survie de la bourgeoisie était en jeu. Et si les mêmes dirigeants impérialistes ont été inflexibles à partir de 2010 avec le peuple grec, ce n'est pas à cause de l'ordolibéralisme allemand, ni à cause du néolibéralisme du FMI, mais parce qu'ils sont les huissiers du Crédit Agricole, de la Société Générale ou de la Deutsche Bank. Parce que les dirigeants européens voulaient montrer à tous les travailleurs d'Europe qu'une dette, ça se paie, et qu'ils devaient accepter de se serrer la ceinture. Ils ont fait ce que les représentants du FMI, au nom des grandes banques occidentales, ont imposé bien des fois à la population du Mexique, d'Argentine, de multiples pays d'Afrique, étranglés par la dette, qu'elle soit en dollars ou en euros. En présentant les institutions européennes, comme responsables de l'austérité et de toutes les attaques subies par les travailleurs, les souverainistes dédouanent la bourgeoisie française et tous les gouvernements successifs à son service. Ils prennent ainsi la suite des dirigeants du Parti communiste français qui ont bataillé en leur temps contre la mise en place de l'euro et multiplié les campagnes pour produire français. Quand un journal local du PC écrit récemment « Pour assurer l'indépendance de notre pays, il faut produire en France ce que nous consommons ici, faire travailler en priorité nos PME au lieu de les mettre en concurrence avec celles des pays à bas coût », eh bien c'est non seulement une absurdité au regard de ce qu'est l'économie capitaliste, mais cela entretient les préjugés nationalistes sur lesquels surfent tous les partis et d'abord le Front National. Parler de l'indépendance du pays, c'est faire croire à l'existence d'un intérêt national commun aux travailleurs et au patronat, aux propriétaires des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. C'est omettre l'opposition de classe entre les travailleurs et la bourgeoisie capitaliste. C'est oublier, ou plutôt c'est cacher, le fait que les premiers ne s'émanciperont réellement des seconds qu'en disposant eux-mêmes du pouvoir sur les moyens de production, sur le fruit de leur travail. Alors les idées souverainistes, elles empêchent les travailleurs de comprendre les tenants et les aboutissants de leur exploitation. Elles entretiennent la dangereuse illusion qu'il existe un intérêt national dont l'État, tel un arbitre placé au-dessus des classes, assurerait la défense. Mais à l'échelle nationale, l'État est un appareil entièrement au service des principaux capitalistes, tandis qu'à l'échelle internationale, une poignée de puissances impérialistes impose leur ordre social, c'est-à-dire la défense des intérêts de quelques grands groupes dont la rivalité et l'avidité plongent toute la société dans le gouffre. Pour empêcher ces capitalistes de nuire, pour enrayer la course folle de leur économie vers l'abîme, il faut les exproprier et pour cela renverser les États qui les protègent. Le capitalisme a transformé la planète en une seule et unique entité économique où toutes les régions sont interdépendantes. Aux chimères souverainistes, il est vital d'opposer le communisme, c'est-à-dire la mise en commun des richesses de la société, des moyens de les produire et de les répartir. Il est vital de renouer avec l'internationalisme prolétarien, c'est-à-dire avec l'idée défendue par les premiers socialistes selon lequel les ouvriers n'ont pas de patrie. Cet internationalisme n'est pas seulement un slogan, il doit être une boussole et un programme. C'est au travers de leur lutte, de la défense de leurs conditions d'existence, que les travailleurs apprendront qu'ils ont des intérêts de classe communs, par-delà leur corporation, par-delà leur statut, mais aussi par-delà le pays où ils résident. Ils apprendront qu'ils ont en face d'eux une même classe bourgeoise à qui il faut arracher la propriété sur les moyens de production. Alors la vie sociale et politique étant organisée à l'échelle des nations, les luttes et l'organisation des travailleurs passeront nécessairement par une étape nationale. Il va sans dire que le prolétariat de chaque pays doit en finir d'abord avec sa propre bourgeoisie, écrivaient Marx et Engels dans le Manifeste communiste. Mais cela ne peut être qu'une étape. Les grandes luttes du passé ont souvent été contagieuses, débordant les frontières pour mettre en branle de nouveaux contingents de travailleurs. C'est plus vrai encore des grandes révolutions qui ont ébranlé la société. Mais pour que les futures révolutions soient victorieuses et transforment définitivement la société, il est nécessaire de rebâtir une organisation internationale des travailleurs, un parti mondial de la révolution avec des sections dans le maximum de pays. Le mouvement ouvrier a su en bâtir plusieurs fois dans le passé, il saura renaître pour recommencer. Eh bien, la tâche des révolutionnaires, c'est de les y aider.